Radio Kapi.
Bonsoir à vous qui nous écoutez. Merci de rester branchés sur Radio Kapi, la radio de la paix. Je suis Gisèle Cage et voici votre journal du soir. Dans cette édition, l'essentiel de l'actualité expliquée et vérifiée pour vous. Voici le sommaire. Nord Kivu, le M23 décroche et le terrain bascule. En quelques jours, l'AFC M23 et l'armée rwandaise quittent une dizaine de villages à Lubero et à Walikale. Matériel lourd retiré, administration rebelle évacuée. Wazalendo de retour dans plusieurs localités, mais sans l'État pour combler le vide. La population retient son souffle, tandis que Kinshasa, Kigali et le M23 gardent un silence total sur ce repli éclair. Kwilu, la RN1 cède et l'État fonce en urgence. Le ministre des Infrastructures a débarqué sur le lieu, constaté l'ampleur du désastre et ordonné des travaux immédiats pour stopper l'érosion, sauver cette artère vitale et protéger les réseaux SNEL. Une intervention express saluée par une population coupée du pays du jour au lendemain. En vue de ce journal, la directrice générale de ISES, Kin, revient sur un leadership affirmé, des réformes internes engagées et une dynamique pédagogique renouvelée, 3 mois d'action intense et une vision claire pour moderniser l'Institut. En Nord Kivu, le vent tourne enfin. Les troupes de l'AFC M23 et de l'armée rwandaise battent en retraite dans plusieurs villages du territoire de Lubero qu'elles occupaient depuis plus d'un an. Même mouvement observé dans certaines zones du territoire de Walikale. Un retrait qui change la donne sur le terrain. Les détails dont le papier de Martial Papi Mokeba rendu par Jude Mister Bilanda.
Jusqu'à ce vendredi matin, une dizaine de villages de Lubero ont été abandonnés sans combat depuis lundi avec retrait des matériels militaires, y compris armes lourdes et d'appui. Les responsables de l'administration parallèle installée par l'AFC M23 ont également quitté la zone. Dans ces vides, les groupes armés dits Wazalendo ont réoccupé des villages comme Vukununu, Ilambula, Ivatama, Luseke, Lunyasenge et Kipese. Aucune exaction n'a été signalée, mais les populations reste inquiète à l'absence de l'État. Les sources sécuritaires précisent qu'aucune consigne n'a été donnée pour un redéploiement des FARDC et de la police. Parallèlement, des retraits ont été observés dans certaines positions avancées de l'AFC M23 de Walikale, notamment à Mijenge, Mpeti et Katekou près de Lubero. Les troupes regrouperaient hommes et matériel avant de se diriger vers Rutshuru. À ce jour, ni l'AFC M23 ni les gouvernements congolais ou rwandais ne se sont officiellement prononcé sur ces mouvements.
Dans la Tchopo, la police nationale congolaise passe à l'offensive. 14 présumés criminels arrêtés à l'issue d'une série d'opérations musclées menées à Kisangani. Une réponse ferme face à la montée récente de l'insécurité dans plusieurs quartiers. Les explications avec Jacques Mokonkole.
16 individus présentés à la presse hier font face à des accusations graves. Une partie d'entre eux est poursuivie pour vol à main armée, tandis que d'autres sont pointés du doigt pour des faits survenus dans le village Ngenengene, dans la périphérie de la ville. Dans cette localité, ils auraient non seulement troublé l'ordre public, mais auraient également porté atteinte au symbole de la République, un acte de défi envers l'autorité de l'État. Le commissaire supérieur principal, Elvis Palanga Nawej, a profité de cette présentation pour lancer un avertissement sévère, non seulement aux malfrats, mais aussi à ses propres troupes. Sa ligne de conduite est claire, dignité et professionnalisme. Quiconque se cartera de la discipline trouvera le commandant sur son chemin. Le dossier est désormais entre les mains de la justice. Tous les suspects ont été transférés hier à la prison centrale où ils seront entendus sur les faits qui leur sont reprochés. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Sécurité toujours, mais cette fois avec une touche d'espoir. À Kindu, la machine du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS s'active. La coordinatrice nationale adjointe Marie-Chantal Lumba est arrivée ce jeudi pour lancer officiellement l'opération de désarmement et de démobilisation des ex-combattants déterminés à tourner la page des armes. Elle annonce même une descente jusqu'à Lokando, dans le territoire de Kailo. On l'écoute, propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous sommes aujourd'hui venus dans la province du Maniema pour aller lancer les opérations proprement dites de désarmement et de démobilisation dans le territoire de Kailo. Nous attendons plusieurs centaines de citoyens congolais, des anciens des groupes armés qui ont choisi aujourd'hui la voie du retour pour la stabilisation et la paix. Un message qui avait été lancé par son excellence le chef de l'État, qui est aussi le président du comité de pilotage du PDD-RCS, qui avait demandé à tous les groupes armées de pouvoir déposer leurs armes et de pouvoir travailler pour la paix et la stabilité. Donc nous sommes aujourd'hui là pour concrétiser cette vision. Il faudrait dire que les populations du Maniema aspirent à la paix et chaque citoyen du Maniema qui a déposé son arme a envie de pouvoir travailler, de pouvoir apporter un appui pour la stabilité d'une autre manière qu'en utilisant l'arme. Et le fait que nous ayons ces redditions volontaires, ça prouve à suffisance que les gens ont envie de pouvoir travailler pour la province d'une autre manière. À ceux qui traîne, c'est de pouvoir déposer, de pouvoir voir autrement comment servir le pays.
Une adolescente d'environ 17 ans a frôlé le pire ce jeudi dans les territoires de Demba au Kasaï central. Selon plusieurs sources locales, les jeunes avaient déjà été hypnotisés par ces ravisseurs présumés, mais leur tentative d'enlèvement a finalement été mise à l'échec in extremis. La Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves qui tire la sonnette d'alarme confirme que l'un des suspects a été maîtrisé et se trouve désormais entre les mains de la police. La structure rappelle les parents et les autorités à redoubler des vigilances, surtout à l'approche des congés de Pâques, période souvent sensible pour la sécurité des enfants. Pour les détails, on retrouve André Katende Ngala Moulumé.
D'après des sources sur place, deux personnes non identifiées ont réussi à hypnotiser un garçon d'environ 17 ans au quartier Lulangu, provoquant chez lui une perte de connaissance. Alerté, le chef de quartier est intervenu rapidement en appelant la police, qui a réussi à maîtriser un suspect avant de l'acheminer au commissariat territorial. Face à cette situation, le coordonnateur de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, Lisadel, dans les territoires de Demba, indique que plusieurs localités de ces territoires font actuellement face à des cas d'enlèvement d'enfants. Marcel Massanka appelle les parents à redoubler des vigilances, surtout à l'approche des congés du Pâques.
Il y a un mouvement d'enlèvement des enfants. Nous, comme structure qui défend les droits des enfants, profitons de l'occasion pour lancer un appel à tous les parents, tous les tuteurs, de jouer pleinement leur rôle en tant que gardien de ces enfants.
Marcel Massanka invite également les autorités locales à contenir cette insécurité et veiller à la protection des enfants. Kananga, André Katendingala Moulumé, Radio Okapi.
En route maintenant vers le Kwilu, où une situation critique a obligé le gouvernement à réagir vite. Au lendemain de la suspension du trafic sur la RN1 à Kikwit, le gouvernement est monté au créneau. Arrivé sur les lieux, le ministre des Infrastructures a ordonné le lancement immédiat des travaux d'urgence pour sauver cette voie vitale et protéger le réseau de la SNEL. Une décision saluée par la population locale. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayonda.
La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 24 au 25 mars sur la ville de Kikwiti dans la province de Kwilu a provoqué une avancée brutale de la tête d'érosion de Wazabanga coupant en deux la route nationale numéro 1. Dès son arrivée sur les sites, le ministre des Infrastructures a constaté l'ampleur des dégâts. Il a convoqué une réunion d'urgence avant d'ordonner le lancement immédiat des travaux pour stopper la progression de cette érosion. Selon John Banza, l'objectif est de préserver cette route d'importance capitale et de protéger les réseaux de la SNEL pour éviter une coupure générale d'électricité dans la ville. John Banzalunda.
J'ai dû interrompre ma participation aux travaux de la 13e conférence des gouverneurs pour venir prendre en charge ces travaux d'extrême urgence.
À cette occasion, ces membres du gouvernement appelaient la population de Kikwit à l'apaisement, affirmant que le gouvernement central a déjà tout mis en œuvre pour maîtriser cette situation.
À la population de Kikwit, soit être apaisée et nous allons juguler cette érosion.
Cette intervention rapide du gouvernement a rassuré la population locale qui ne souhaite que voir ses travaux confiés à l'entreprise Safrimex se poursuivre avec célérité.
Et pendant que le Kwilu souffle à Kinshasa, c'est une autre menace qui gagne du terrain, dont la commune de Limba, un ravin menace de tout emporter. Sur l'avenue Kwango, près de l'Unikine, le ravin Libenge continue de s'étendre, mettant habitations et activités en danger. Les habitants vivent dans l'angoisse. Reportage signé Jean-Marie Kanaimba.
D'après le témoin, ce ravin Libenge progresse chaque jour. Maisons, biens, élevages et jardins, rien n'est épargné. Même le petit marché local, essentiel pour l'approvisionnement en vivres, est menacé de disparition. À chaque pluie, la situation s'aggrave. Les habitants vivent dans la peur permanente, redoutant de nouveaux dégâts.
Nous sommes à Lemba, quartier Mbanzalemba, sur l'avenue Kwango. Depuis que nous vivons ici, nous assistons au désastre que cause ce ravin. Il a tellement duré et les dégâts sont énormes. Les gens y sont morts, les maisons s'y sont écroulés, élevages et jardins ont disparu. Nous vivons chaque jour la peur de disparaître. Que l'État vienne nous aider.
Nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de tenir compte de sa population qui habite ce coin aux côtés de ce ravin. Nous sommes déjà fatigués de souffrance et nous voulons retrouver notre calme.
Un sentiment d'abandon gagne ce riverain qui dénonce l'inaction face à l'urgence. Pour eux, les temps pressent. Sans intervention rapide, ce quartier pourrait disparaître sous l'effet de l'érosion.
Quittons la capitale pour la province de Lomami où le trafic est totalement paralysé. Blocage total au bac Makolé sur la rivière Lomami. Une panne technique immobilise cette infrastructure cruciale, coupant la circulation entre plusieurs localités, y compris vers Kabinda, le chef-lieu provincial. Un blocage qui ralentit tout le territoire. Reportage des Aboto Yombwe de la Radio Veritas, rendu par Richard Junior Kamunga.
Sur place, seuls les pirogues tentent d'assurer le passage, mais la tâche est difficile. Surcharge, lenteur et montée des eaux complique la traversée. Les usagers parlent d'un déplacement risqué, parfois impossible, surtout pour les marchandises. Face à cette situation, le député provincial Sébastien Kachimpo est intervenu, l'élu du territoire de Lubao. Il a saisi en urgence le vice-gouverneur assurant l'intérim du gouverneur ainsi que le directeur provincial de l'office de route. Objectif, obtenir une solution rapide pour réparer le bac et relancer le trafic. L'élu de Lubao CV tout de même rassurant, il promet une intervention dans un délai bref. En attendant, les activités tournent au ralenti dans cette partie de la province de Lomami. Pour les habitants, la reprise du trafic au bac Makolé devient une urgence.
Direction le Sud Kivu, la tension politique se mêle à la sécurité. La réhabilitation de l'administrateur du territoire de Shabunda n'a pas été un long fleuve tranquille. Arrêté depuis 9 mois, puis acquitté, Justin Balegamire Bienda a retrouvé son poste aux mains dans un climat électrique marqué par son conflit ouvert avec son adjoint Kunga Kunga, chacun soutenu par des groupes Wazalendo. Le ministre provincial de la Justice appelle au calme, à la solidarité et au vivre ensemble. On écoute Faustin Mayani Shindano dans cet extrait choisi par Jean Kassami.
À l'issue de toutes les procédures, la justice s'est prononcée et il a été acquitté. Voilà pourquoi la haute hiérarchie m'a demandé de venir avec l'administrateur à Shabunda participer à sa remise et reprise avec celui qui faisait l'intérim et faire rapport au gouverneur de province. La justice a trouvé que l'administrateur du territoire de Shabunda était innocent. Il y a quelques personnes qui ont été instrumentalisées par les officines qui se trouvent à Kinshasa et qui ont toujours été à la base de la haine, de la division et des conflits entre les fils et les filles de Shabunda. Voilà pourquoi mon message est d'appeler toute la population de Shabunda à la solidarité, à l'amour, au vivre ensemble, parce que nous ne pouvons pas construire la paix sur une poubelle de conflits. Nous devons nous aimer et nous devons construire un Shabunda uni, fort et prospère.
Mais sur le terrain, les abus commis par certains Wazalendo contre les civils restent nombreux à Shabunda, une situation qui continue d'inquiéter la population.
Actualité internationale.
L'Autriche franchit un cap majeur dans la régulation du numérique. Le gouvernement a annoncé ce vendredi 27 mars 2026 son intention d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 14 ans. Cette décision intervient après de longues négociations au sein de la coalition réunissant gauche, droite et libéraux. Pour le vice-chancelier social-démocrate Andreas Babler, le constat est sans appel. Il est presque impossible pour les parents de contrôler la consommation de leurs enfants, d'autant que ces plateformes sont conçues pour les rendre dépendants, a-t-il déclaré en conférence de presse. Le gouvernement souhaite prendre le projet de loi dès cet été afin d'en permettre l'entrée en vigueur le plus rapidement possible. L'objectif n'est pas d'établir une liste figée des réseaux visés, mais de cibler les plateformes qui utilisent des algorithmes adductifs générateurs de profits et jugés nocifs pour les jeunes utilisateurs. Cette annonce s'appuie sur une expérience nationale menée par le ministère de l'Éducation, une période de 3 semaines sans téléphone portable à laquelle ont participé 72 000 élèves et leurs familles. Les résultats ont renforcé les autorités dans leur volonté d'agir face aux effets jugés préoccupants de ces technologies sur les mineurs.
L'invité.
La directrice générale de l'Institut supérieur de statistiques de Kinshasa, Iseskin, est l'invitée de ces journaux. Au sein de cette institution d'enseignement supérieur, les activités marquant la fin du mois de mars ont tourné autour du thème central, le leadership organisationnel. Pour clôturer le mois dédié aux droits des femmes, une émission spéciale d'Okapi Service a été organisée ce jeudi 26 mars 2026, réunissant le comité de gestion, le personnel administratif, le corps scientifique et les étudiants. Dédé Aliango, directrice générale, y est revenue sur le choix de cette thématique, mais aussi sur le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de l'ISESKIN. Elle en parle au micro de Benjamin Moudoumbi.
Bonjour Madame la DG.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Alors pourquoi doit-on parler aujourd'hui de leadership transformationnel ?
Ce qui est à la base de cette thématique-là, c'est d'abord nos 100 jours à la tête de l'ISES. Alors, quand on a essayé de voir tout ce que nous avons fait en 100 jours, ce qui nous est venu à l'esprit, c'est les leaderships transformationnels. Pourquoi ? Parce que en 100 jours, nous avons inspiré les parties prenantes de notre organisation, c'est-à-dire le personnel académique, scientifique, administratif, technique, ouvrier, mais aussi nos étudiants. Nous avons eu une vision pour l'ISES, nous avons partagé cette vision-là, et en partageant la vision sur l'ISES, les parties prenantes ont intégré la vision, ils nous ont accompagnés, et cela a transformé notre organisation. Et c'est pourquoi on parle du leadership organisationnel, parce que c'est ce leadership qui va inspirer, mobiliser et transformer les organisations, l'environnement, etc. etc. Donc c'est parti de là.
Quels sont, au cours de vos 100 jours, la direction de l'Institut, les grandes réalisations et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ?
En 100 jours, normalement, nous avons eu 17 projets réalisés à impact et puis 4 réformes, on va dire structurelles, que nous avons engagées. Alors, comme 4, c'est un petit nombre, je vais commencer par là. La première réforme, c'était de faire de la transformation digitale. On a commencé à digitaliser nos services. Ça ne fait que 3 mois, mais nous avons déjà quelques résultats par rapport à cette digitalisation. La deuxième réforme, c'est par rapport au cadre de formation. Donc, dans le cadre de formation, je vois en même temps le cadre physique, mais aussi les cours et la manière de dispenser les cours, de former les étudiants. Et ça, nous avons revu. Nous avons commencé par mettre de l'ordre dans les cadres, assainir les cadres, et je vous dis qu'on a fait un grand travail. Vous êtes en train de voir. Et maintenant, là, au niveau de la pédagogie, nous sommes en train de développer plusieurs outils pédagogiques. Par exemple, une IA vraiment performante va nous aider dans la génération de cours des différentes sections. Vous voyez? Et à part ça, nous commençons petit à petit ce qu'on appelle la pédagogie inversée pour certaines filières où ils ont besoin d'avoir d'abord de la matière, d'avoir les documents, d'avoir lire, commencer même des travaux pour ensuite venir discuter avec les étudiants. Parce que nous avons constaté qu'il y a un gap entre ce que nous enseignons aux étudiants dans les universités, dans les instituts supérieurs et la réalité sur le terrain. Maintenant, pour diminuer ces gaps-là, nous sommes allés voir ce que les entreprises et les organisations ont besoin. Et maintenant, nous venons le partager avec nos étudiants, les faire travailler dans ce sens-là pour que quand ils seront dans le milieu professionnel, qu'il n'y ait plus ces gaps-là. Et enfin, le rayonnement de l'institution. Nous voulons positionner Iseskine comme cette institution des statistiques au service du pays. La gouvernance de notre pays, les organisations de notre pays ont besoin des données fiables pour des prises de décisions efficaces. Et donc, l'ISES se positionne comme un acteur pouvant leur venir en aide.
Par rapport à ça, jusque-là, pas de contraintes?
Ah si, on a fait face à énormément de défis. Le premier défi, c'était des ressources. Nous avons quand même une vision assez grande qui demande énormément de ressources que nous n'avons pas toujours. Mais nous avons pu compter sur le personnel, que ce soit scientifique, académique, qui ont contribué à la vision. Même les étudiants, vous voyez les fleurs que vous voyez à l'ISES actuellement, les étudiants ont contribué à acheter ça.
Pour finir, Madame la DG, quels seraient, en bref, les piliers de votre vision?
Nous fonctionnons sur base de 4 axes stratégiques. Premièrement, renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche conformément aux normes nationaux et internationaux. L'adéquation de formation aux besoins du pays. Troisièmement, la bonne gouvernance administrative et financière fondée sur la transparence, la rigueur et la redevabilité. Et enfin, les rayonnements institutionnels de l'Iseskine. Iseskine, c'est une institution qui est vraiment importante pour la RD Congo.
Vous venez d'entendre Dédé Aliango, directrice générale de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa. Elle revenait avec nous sur la thématique du leadership organisationnel choisi pour marquer la clôture du mois dédié aux droits des femmes, mais également sur le 101er jour de sa gestion à la tête de cette institution d'enseignement donc supérieur. Un échange réalisé dans le cadre de l'émission spéciale de Capi Service tenue ce jeudi 26 mars 2026 à Kinshasa. Fin de votre journal du soir présenté par Gisèle Cage. Merci d'avoir choisi Radio Capi pour vous informer. Pour des informations fiables et vérifiées, continuez à nous suivre sur les ondes et en ligne. Rendez-vous sur radiocapi.net et sur toutes nos plateformes numériques. Excellente soirée à l'écoute de Radio Capi.